France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Lauréat du Man Booker Prize en 2021 avec son nouveau roman Où s'adosse le ciel, David Diop nous entraîne aujourd'hui dans une grande épopée entre Égypte ancienne et Mali du 19e siècle, sur les pas d'un peuple en exil et d'un griot. Il est mon invité à partir de 13h. Et comme c'est mercredi, le cinéma est au menu de la critique. Aujourd'hui, deux films qui sortent en salle, La petite dernière d'Afsia Hirsi et La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov. Vous écoutez les Midis de Culture et on vous parle depuis le studio. Studio 451 de la Maison de la Radio. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui Sandra Onana, critique de cinéma à Libération, bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Léris, journaliste et critique, bonjour.
Bonjour Marie.
Bienvenue à tous les deux. On commence donc avec La petite dernière, le nouveau film de la comédienne et réalisatrice Afsia Hirsi. C'est le premier roman de l'autrice Fatima Das qu'elle adapte à l'écran. Roman très proche de l'histoire intime de l'écrivaine où elle racontait la première année de fac d'une jeune femme franco-algérienne qui découvre son attirance pour les filles, une homosexualité qu'elle a du mal à concilier avec sa religion musulmane. Ce chemin accidenté, inquiétant, joyeux aussi, elle s'y engage pourtant. Nadia Meliti, dans le rôle de Fatima, a reçu le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes et le film a remporté la Queer Palm. On commence avec d'abord quelques mots d'introduction, Sandra Onana.
Je trouve que c'est un très beau film d'apprentissage qui évite les pièges du film à sujet et qui coïncide parfaitement avec la force d'apparition très mystérieuse de cette comédienne qu'on connaissait pas encore, Nadia Meliti.
Antoine Léris.
La plupart des films perdent à être adaptés au cinéma. La plupart des livres, pardon, perdent à adapter. Celui-là, il gagne notamment un visage et un visage absolument magnifique.
Et dont on se souviendra évidemment et qu'on retrouvera, on l'espère très fort. On écoute la bande-annonce de La petite dernière.
Salam tout le monde.
Salam ma fille.
Ça va Yuma?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille dégueulasse.
Tout à l'heure, tu sers à rien.
Je vais faire comment putain avec ton mari? Tu ne seras pas là.
Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
Comme ça.
Lui alors? Don't feel like me now. Going way down south. Won't try to explain now. I'm by myself.
Comment t'as su que tu préférais les femmes?
Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes. Et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
C'est Idan, on se la roule.
La pédale, votre copine, la lesbienne, là. Elle fait plus comme un garçon.
J'adore, t'es tout timide.
C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoupe ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre. Hein.
L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux.
La petite dernière d'Afsia Hirsi sur les écrans. Aujourd'hui, Sandra Onana, vous disiez qu'il évitait les pièges des films à sujet. Quels sont ces pièges qu'il évite?
C'est vrai qu'en fait, on pouvait postuler ou craindre. En fait, il y a quelque chose dans le thème du film qui pourrait être racoleur et voyeuriste, dans le sens où on pourrait le réduire à des mots-clés qui seraient homosexualité, islam, banlieue. Et en fait, ce qui est superbe, c'est que le film n'a vraiment aucun discours à tenir, aucun diagnostic à fournir sur ces thèmes-là. Je pense qu'il se place à un endroit très conscient qui réparerait un peu le sentiment d'intrusivité que commet déjà, je sais pas, que commettent les chaînes d'infos en continu, par exemple, sur ces thèmes, et qui fournissent toujours du commentaire sur le droit de personnes à exister, sur les conditions dans lesquelles on tolère ou pas qu'elles existent. Et en fait, c'est inexistant dans ce film-là, parce que c'est sur le mode du film d'apprentissage qui, je trouve, respecte l'opacité de son personnage. Il y a quelque chose de très beau. C'est comme si on nous disait qu'il y a des choses qui ne regardent qu'elle. Mmh. Et voilà, on regarde une héroïne en nous disant qu'il y a des choses qui ne regardent qu'elle. Et voilà, je trouve qu'il y a cette morale du regard qui triomphe et qui, en effet, déjoue ce qu'on pourrait craindre du film à thème sociétal, percutant, de l'impasse identitaire, quelque chose qui serait plombant. Et qui, en fait, s'avère extrêmement solaire dans ce film-là.
Ouais, il y a des scènes, justement, récurrentes qui, je trouve, racontent exactement ça. Ce sont ces scènes où, très tôt le matin, elle prie. Elle se met donc un voile intégral pour la prière. Puis ensuite, elle passe des longues minutes. Enfin, on la regarde regarder l'horizon sans savoir vraiment à quoi elle pense. Et justement, je trouve qu'effectivement, FCRZ a l'intelligence de lui laisser la liberté de ce qu'elle ressent, de ce qu'on imagine qui peut se passer dans sa tête. Et ça, je trouve ça très intelligent, la bande-annonce qu'on entendait est en fait effectivement très trompeuse, quoi. Parce qu'on nous cale en gros tous les mots-clés qu'on attend de ce type de film-là, et puis en fait on débarque dans simplement la naissance du regard, la naissance du désir. Alors oui, c'est la naissance du désir pour une jeune femme qui habite effectivement dans une cité qu'on imagine de banlieue, qui une jeune femme qui est prise entre sa croyance, sa foi et son désir, c'est quelque chose qui l'habite et qui la dépasse un peu. Mais en réalité, effectivement, ce désir-là est un désir homosexuel. Mais en réalité, c'est simplement quelqu'un qui s'éveille à ce sentiment amoureux, à ce désir-là. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est que cette sexualité, elle est abordée de manière très frontale. Notamment dans le premier rendez-vous que fait cette jeune fille avec une femme qu'elle rencontre sur une application, et où tout de suite elle lui pose quasiment toutes les questions. Et quelque part, dès le début du film, on a parlé de cunnilingus, de 69, de tout ce qui peut y avoir.
On se débarrasse de la question.
Exactement. Ouais. Et comme ça, c'est terminé. Et on peut passer au vrai sujet, c'est-à-dire une jeune femme qui s'éveille à sa sensualité.
Et quand vous parliez justement de livres qui peuvent perdre à l'adaptation, c'est important.
Il y en a un juste après dont on va parler, je crois.
C'est important parce que le premier roman de Fatima Das, elle parle à la première personne. Donc, cette opacité, c'est vraiment un choix, là, de la réalisatrice, Afsia Herzi.
Moi, je pense qu'il y a, je pense que l'émotion vient en effet de ce passage de flambeau aussi. Moi, je me lasse jamais de dire, je trouve que Afsia Herzi, c'est la plus grande comédienne actuelle du cinéma français. On l'a découverte toute jeune dans La Graine et le Mulet. C'était une inconnue. Et là, de passer le flambeau, ce truc de transmission, de révélation avec une autre comédienne. Ce qui est très beau, il y a un cliché aussi qu'on dit quand on voit toujours le fantasme du casting sauvage, on voit arriver une actrice et on aime bien dire, elle s'offre sans conditions à la caméra. Mais pas du tout. Elle s'offre avec des conditions, évidemment. Et qu'est-ce qu'on disait sur cette question de l'érotisme du verbe dans cette scène d'initiation que moi je trouve super, c'est comme de l'audio-description, en fait.
Elle est drôle, en plus, cette scène, il faut aussi le dire.
Extrêmement drôle, où on se débarrasse. Moi, je trouve que c'est presque une manière de dire, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Si jamais on se demandait quelle barrière de pudeur on va franchir sur cette jeune femme qui est à la fois, en fait, on nous confronte à la description extrêmement précise d'actes sexuels et à la possibilité que le film soit charnel dans les fondus au noir, dans les ellipses, de se dire que c'est pas par exhibitionnisme qu'on va rencontrer la question du désir, mais par quelque chose d'autre qui respecte aussi sa pudeur. Moi, je trouve que c'est un film aussi chaste dans ce qui peut être sensuel dans la chasteté, en fait.
La question que vous posiez, Marie, elle est hyper intéressante parce que moi, ce que je trouve très intelligent de la part d'Afsia Herzi, c'est d'accepter l'impuissance du cinéma. C'est-à-dire ce que vous racontiez. Bah oui, dans un livre, on passe des heures et des heures en intimité, en fusion avec l'auteur. On est dans ses pas, on est dans sa langue. Bah, le cinéma ne peut pas exactement ça. Il a une impuissance à montrer les émotions ou alors il essaye de les démontrer et souvent il tombe à côté. Et donc, accepter cette impuissance-là en filmant longuement ce visage silencieux qui a quelque chose à raconter, qui raconte quelque chose, mais pas directement, indirectement, peut-être comme le fait la littérature en faisant résonner quelque chose en nous, je trouve que c'est accepter cette impuissance-là et en faire une force. Et elle utilise aussi par ailleurs toute la force du cinéma, justement dans cette sensualité, dans cette chair, dans ces visages qui apparaissent, parce qu'il n'y a pas que l'actrice principale, il y en a d'autres aussi. Et dans le fait de nous mettre en image, cette traversée, vous parliez d'un chemin, il y a vraiment cette image du pont qui revient en permanence, cette image du fleuve, cette image de la traversée à la manière de Marguerite Duras, quoi, qui traverse le Mékong. Mais il y a quelque chose de ça dans cette naissance de la sexualité, de la sensualité de cette jeune femme.
Il y a aussi donc la caméra d'Avsé Hersi et le temps d'Avsé Hersi qui est particulier. Dans ces deux précédents films, c'était aussi le cas. Ces scènes qu'elle étire un peu comme ça, moi, ça m'a frappé. Ça, qu'est-ce qui apparaît dans ce cinéma-là?
Oui, les scènes de famille m'ont beaucoup fait penser à son deuxième long métrage, Bonne Mère, que j'aimais un peu moins que le premier, mais qui avait déjà, je pense, ce souci de restituer, je sais pas, la cacophonie familiale, pareil avec les bandes d'amis, on se charrie et on attrape quelque chose d'une vérité de l'instant. Bon, ça a beaucoup été supputé qu'elle l'avait hérité du cinéma de Kechiche. Je pense que, en fait, on se répète un peu, mais en fait, ces scènes seraient caricaturales si elles servaient à illustrer quelque chose. Et en fait, les personnages sont des individus, ils roulent que pour eux-mêmes, ils viennent pas. Par exemple, moi, un personnage que j'aime beaucoup, puisqu'on parlait de second rôle, c'est l'amoureux de Fatima avant son coming out, qui, en fait, sur le papier, c'est un macho. Lui, il se reconnaît dans la conjugalité halal, la tradition. Mais en fait, les scènes où elle va le confronter ou le décevoir, en fait, ne servent pas à illustrer l'adversité du patriarcat face à l'émancipation. Lui, c'est un individu et en fait, ça nous raconte un cœur brisé. Il comprend pas, c'est l'incompréhension qu'il a devant ce qu'essaye d'exprimer sa copine ou ce qu'elle le lui cache. Et donc, je trouve qu'une autre caméra aurait montré un choc culturel entre la tradition et l'émancipation féminine. Ici, personne ne sert à illustrer une idée de société, c'est un individu et il a le cœur qui saigne, il est très touchant.
C'est aussi la question, alors il y a la question de l'homosexualité, la question de faire coïncider ce désir et cette vie qu'elle va avoir avec sa foi, mais il y a aussi la question de la classe sociale qu'elle traverse en allant en première année de fac et tous les gens qu'elle rencontre qui ne vivent pas du tout la même vie qu'elle. Et elle est aussi à cheval entre ces deux-là.
Oui, mais encore une fois, ça n'est absolument pas démontré, en tout cas, ça n'est pas explicité, ça n'est pas une thèse. C'est-à-dire qu'il y a justement le réalisateur qui l'a fait tourner, qui nous a permis de découvrir Avsé Hersi, a fait lui un film que j'ai trouvé magnifique.
On pense évidemment à La vie d'Adèle. Forcément, il y a quand même... Et puis, elle envoie des petits signaux aussi.
Un peu, mais je trouve qu'elle le fait très différemment. Parce que donc, lui, vraiment, démontre quelque chose, quoi. Dans Chez Kechiche, il y a la scène où on mange des huîtres et où on ne sait pas ce que c'est les huîtres. Et puis, il y a la scène où on dit « Ah bon, tu veux seulement faire prof ?» Enfin, voilà, c'est très démonstratif, on sait absolument où on est. Là, je trouve que c'est un peu plus subtil, à la fois un peu plus discret, un peu moins pleine puissance du réalisateur. Le réalisateur est un peu plus témoin qu'il l'est chez Kechiche. Et je trouve que la différence aussi, quand on disait « laisse tourner la caméra pour obtenir quelque chose de ses acteurs », là où on a le sentiment chez Kechiche que c'est parfois dans la tension et que cette tension accumulée va sortir quelque chose qui va dépasser les comédiens, là on a le sentiment d'un regard qui est pas forcément plus doux, mais qui invite les acteurs à donner quelque chose qu'ils ont envie de donner. Il y a, je trouve, un sentiment très différent, et notamment, il y a une scène bouleversante qui est à la fin du film, qu'on ne va pas raconter, mais que vous ne pourrez pas oublier, je pense que c'est impossible, et où on sent qu'en laissant tourner, elle laisse advenir quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup moins percutant, de beaucoup moins quelque chose qu'on arracherait aux comédiens.
Sandra Onana ?
Non, puisqu'on fait concert de louanges, si on peut, puisqu'on parle de la question de la classe et qu'on peut trouver pas un bémol à mon sens, mais en tout cas un choix, effectivement, dans ce qui pourrait être une violence, c'est-à-dire de passer d'une classe à une autre, le parcours de la transfuge, comme on dit maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est facilité et presque euphémisé, je pense. C'est presque, moi, je l'ai pris en voyant le film, comme si ça aurait déjà été trop lourd, en fait, de lui mettre sur les épaules la difficulté de ce coming out, de s'aimer soi-même, de se trouver dans sa foi, dans son désir pour les femmes. Si en plus on chargeait la barque avec l'arrivée extrêmement violente chez les bobos parisiens qui lui disent « Ah bon, tu bois pas, t'es vraiment une sainte » ou je sais pas quoi. Donc ça, je trouve que c'est très euphémisé dans le film, peut-être même nié, peut-être que c'est plus doux qu'on aurait pu s'y attendre. Et moi, ça m'a aussi fait penser à ce film de Daniel Arbide qui s'appelle « Peur de rien », que j'aime beaucoup. C'était une autofiction sur sa jeunesse de jeune étudiante libanaise qui arrive à Paris. Il y avait un côté un peu pareil, on débarque dans les teufs, il y a un peu de drogue qui circule, il y a de l'alcool, et on aurait dit qu'elle se glissait tout de suite dans les marivaudages, dans quelque chose d'une liberté sexuelle, sans qu'il y ait eu ce choc des cultures au début. Je pense que c'est un choix conscient du film. Peut-être que certains le lui reprocheront, ils diront que c'est bisounours. Moi, je pense que c'est un choix très solaire et que je pense comme presque feel good, en fait, une sorte de chemin d'émancipation, mais à ciel ouvert.
Ouais,
quoi.
Puis je pense que ce serait oublié, en fait, qu'elle fait des allers-retours, parce qu'on parlait de cette traversée, elle traverse une fois, puis elle revient, puis c'est à chaque fois des allers-retours. Et elle est différente même physiquement, hein, ouais. Quand elle part de chez elle et quand elle arrive avec sa casquette vissée sur la tête, toute de noir vêtue, aux stations de métro, qu'on la voit traverser tout au long du film.
C'était donc La Petite Dernière en salle aujourd'hui de Afsia Hirsi d'après l'œuvre de Fatima Das avec, je vais pas citer tout le casting mais quand même, Nadia Meliti et Jimin Park.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Également sélectionné au dernier festival de Cannes, le nouveau film de Kirill Serebrennikov, La disparition de Joseph Mengele. Le réalisateur russe en exil à Berlin adapte ici le roman d'Olivier Guèze, paru en 2017 et lauréat du prix Renaudot. On y suit la fuite en Amérique du Sud du médecin nazi qui s'est livré aux pires expériences sur les déportés juifs et roms du camp d'Auschwitz. Pendant 30 ans, avec la complicité de sa famille et grâce à l'impunité de nombreux criminels nazis, il échappera à la justice des hommes jusqu'à se noyer dans l'anonymat d'ailleurs, près de Sao Paulo en 1979. Quelques mots d'abord, Antoine Léris.
Quelques mots. Alors en fait, le film a l'air d'un chef-d'œuvre au début, et puis très vite, il s'enferme, et on a très vite envie de sortir de la salle.
Sandra Onana.
Moi, je suis non seulement vraiment repoussée par le film, mais c'est pire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les intentions derrière cette espèce de fresque sordide. Je trouve que si on fabrique des images sur la vie de quelqu'un comme Joseph Mengele, on ne peut pas faire perdre de vue pourquoi on les fabrique, et là, je n'en ai aucune idée.
On va continuer à discuter de tout ça, mais d'abord, on écoute la bande-annonce de La disparition de Joseph Mengele.
Joseph, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
Trinken wir lieber auf Argentinien.
Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
Es ist gut, dass du gekommen bist, Rolf.
Ich wollte nicht kommen. Und jetzt bin ich hier. Und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Warum bist du nach Auschwitz gegangen?
Möge unser Schlaf frei von nächtlichen Albträumen sein.
Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
La disparition de Joseph Mengele par Kirill Serebrennikov. Antoine Léris, qu'est-ce qui vous a fait penser à un chef-d'œuvre tout de suite? Alors, c'est un noir et blanc très beau, hein,
en fait, au départ. Hein. En fait, on arrive dans la salle, on se dit que le livre d'Olivier Guèze a eu le prix Renaudot. Si on l'a lu, on sait que c'est quand même un excellent roman.
C'est un très bon livre.
Oui. On a vu des films de Kirill Serebrennikov et on s'est dit qu'il y avait possibilité de faire quelque chose de très beau. La lumière se fait sur l'écran, le noir et blanc est absolument magnifique. La musique, il y a quelque chose qui va très vite, la reconstitution, tout est superbe. Et puis en fait, très vite, le film s'enferme avec ce personnage qui n'a rien d'autre à faire qu'à crier à l'injustice. L'injustice de pourquoi est-ce qu'on me poursuit, moi, et pas les autres. Moi, je trouve à la limite ce sentiment, assez important, et qu'il raconte quelque chose, quelque part, de l'inconscience, et pourtant, ouais, c'est compliqué de parler d'inconscience, mais de cet enfermement qu'avaient les nazis. Et puis, au-delà de ça, on a quoi? Ben, en fait, on a l'impossibilité d'un dialogue, et donc l'impossibilité d'un film. Ce qui permettait au livre d'Olivier Guèze d'être absolument passionnant, c'est qu'on sentait l'obsession de l'auteur pour son sujet. Et que quelque part, on parlait des problèmes d'adaptation, et ben, en suivant cette obsession-là, on comprenait justement pourquoi est-ce qu'il écrivait. On peut ensuite juger que cette fascination est saine ou pas saine, mais moi, c'est pas mon rôle. Mais en revanche, on suit cette obsession-là. Mais là, on ne sait pas quel est le mouvement du film, le pourquoi, la fascination ou l'obsession de Kirill Serebrennikov.
C'est-à-dire que pour vous, la démarche n'est pas authentique? Sandra Onana.
Mais en fait, moi, ça me pose déjà problème, cette manière de nous tenir en respect avec l'impression d'un chef-d'œuvre extrêmement chiadé. Pour moi, l'exercice de style pose problème. Le zèle esthète pose problème. On sent que on ne voit pas au service de quoi il est mis. On sent que c'est un cinéaste qui se fait plaisir avec des clins d'œil au film noir de gangsters.
Alors, au début, on est en Argentine. Il essaie de se cacher, enfin, en tout cas, de ne pas être repéré dans la rue. On a vraiment l'impression de voir un vieux film, un vieux polar des années 50.
C'est un film de cavale, alors il est en imperméable, il a des lunettes de soleil, il a un chapeau, il y a toutes ces motifs de la paranoïa, il y a des plans-séquences extrêmement virtuoses dans une longue scène de festin de mariage qui culmine à la consommation d'une noce absolument atroce. Alors moi je me demande, est-ce que le film essaye de me prouver qu'en plus d'être un criminel nazi, c'est un satané misogyne, parce que ça alourdirait le dossier? Moi j'en vois pas ni l'intérêt, ni l'espèce de... Comme s'il fallait vérifier l'absence d'empathie que méritait ce personnage, comme si c'était pas déjà acquis. Et oui, donc je trouve ça repoussant, mais ce qui me violente le plus, c'est ce prologue en fait qui annonce qu'on va en quelque sorte, alors dans le prologue pardon, il y a des étudiants en médecine qui auscultent le squelette de Mengele et qui annoncent en quelque sorte on va aller fouiller le mal dans sa carcasse, on va rien dérober au regard. Et moi j'ai l'impression que c'est le cinéaste qui m'annonce qui va infliger comme traitement sordide au corps de Mengele quelque chose qui ferait miroir de ce qu'il aurait infligé au corps des déportés. Et cette pensée m'est tellement obscène, en fait, que je la rejette absolument en voyant le film.
Antoine Léris.
Il y a une scène qui démontre très bien ce que vient de dire Sandra, c'est est-ce que vous saviez que le surnom de Joseph Mengele était le boucher? A priori, oui. Et ben, Kirill Serebrennikov va vous le prouver, vous le démontrer, puisqu'on a une scène où il se retrouve à dépecer un cochon, scène enfin totalement inutile en tout cas pour la narration, à dépecer un cochon dans une sorte de grenier d'une ferme dans laquelle il se cache. C'est ce type de scène qui est absolument difficile à regarder, parce que on sent aussi qu'il y a, au moment où il accroche le cochon sur le boucher, sur le croc de boucher, quelque chose d'insoutenable, d'autant que ça vient en parallèle d'une autre scène que moi je trouve terrible, qui pourtant part de la seule bonne idée que j'ai trouvée de ce film, c'est de dire ce qui s'est passé dans les camps est filmé en couleur. Comme pour dire, le seul présent qui existe pour ce personnage-là, le présent permanent, c'est celui des camps, et tout le reste de sa vie est dans une forme de flou, de passé, de quelque chose qu'il ne vit pas réellement.
Les camps, c'est le bon vieux temps, quoi.
Voilà, c'est un film de vacances. Très heureux.
Voilà. Exactement.
Et c'est filmé comme un film de vacances. Et Super 8.
Sauf qu'on nous montre une scène absolument insoutenable qui consiste à essayer de savoir comment est-ce qu'on peut détacher le plus proprement la chair humaine des ossements. Et on se retrouve devant cette scène-là avec l'envie de sortir. On est des journalistes à peu près sérieux, et donc on reste jusqu'à la fin quand même pour savoir. Mais ce type de scène-là, je ne vois pas l'intérêt qu'elle a dans ce film-là. Je ne vois pas ce qu'elle apporte.
Ce que dit Kirill Serebrennikov avec cette scène de début, notamment où il s'adresse à on voit un professeur s'adresser à des étudiants, et il leur dit « Est-ce que vous savez qui était Joseph Mengele ?» Et les étudiants répondent tous « Non ». Donc on peut supposer que Kirill Serebrennikov pense qu'il a une mission.
Ouais, c'est vrai qu'il a, ça a été dit, c'est écrit, je crois, dans le dossier de presse. Il dit qu'il ne concevait pas de ne pas montrer vraiment les crimes, en quoi consistaient les crimes, de ne pas faire ce geste de flashback. Et c'est effectivement extrêmement éprouvant. C'est des scènes de palpation, d'examen, de dissection, de mise à mort et de dissection. Et en fait, moi, si je trouvais une utilité à ce geste-là, c'est que je pense que les grandes théories sur l'irreprésentable au cinéma, c'est toujours pareil, si on les remobilise pas, si on les réveille pas, elles s'affaiblissent. Et je pense qu'il n'y a pas de texte plus connu, plus célèbre dans la cinéphilie que celui de Rivette sur le travelling de Capot, qui dit il y a l'esthétique, c'est la morale au cinéma, et ce n'est pas possible d'esthétiser le suicide d'Emmanuel Riva dans ce film sur les barbelés d'un camp. Ça, c'est maintenant une doxa utilisée un peu comme un argument d'autorité qu'on repense même plus. On dit le travelling de Capot, c'est inadmissible, point. Je pense qu'il faut toujours remettre à l'étude avec des films d'aujourd'hui. Ces opinions-là, ces textes critiques-là, parce que ce sont des gens qui se sont coltinés cette question au moment où il n'y avait pas de pensée toute prête. Et je pense que ce film fait ça, il donne à se rappeler pourquoi on a réfléchi sur la morale de la caméra, sur l'irreprésentable, et évidemment que Serebrennikov ne peut pas l'ignorer. Il s'inscrit dans cet héritage-là quand il fait ce geste de ce flashback en couleur, on commençait en disant que le personnage insiste beaucoup, vit comme une injustice en fait d'être poursuivi, d'être traqué par le Mossad. Il y a Eichmann qui vient d'être capturé, il le voit à la télé, qui a son procès à Jérusalem. Donc il est poursuivi par l'idée qu'il va se faire capturer et juger alors qu'il n'était pas le seul coupable. Et ce qui est aussi insupportable dans le film, c'est que Serebrennikov donne l'impression que cette paranoïa et cette agonie sur laquelle il insiste serait en quelque sorte le châtiment de Mengele. Il y a quelque chose de l'ordre de ce personnage qui a échappé à la justice, voyez comme il a souffert, on va insister sur sa décrépitude de vieillard, on va le regarder vomir son dentier. Et le film ne dit pas textuellement ça, mais c'est comme ça qu'on le traverse, c'est de se dire « Ah bah, il y a eu un châtiment, en fait, moi je trouve ça obscène. »
Antoine Léris ?
On sort du film avec une sensation vraiment très étrange, avec effectivement l'obligation d'y réfléchir un petit peu, c'est peut-être sa principale qualité, mais avec le sentiment de quelqu'un qui a refait des choses qui ont déjà été faites. Qui le fait avec, parce qu'on se demandait, on se pose la question après un film qu'on a vu il y a 10 jours, 15 jours, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il reste de ce film-là ? Ben, moi, ce qui m'en reste, c'est le visage d'un vieillard qui grogne, qui rumine, une musique beaucoup trop forte, et des tentatives de me faire sortir de la salle et de me demander, en me montrant des images insoutenables, est-ce que tu as le cran d'y rester ou pas ? Et je trouve que cette posture de défi vis-à-vis du spectateur, moi, ne m'intéresse pas dans l'absolu, et encore moins avec ce type de sujet-là.
C'était donc La disparition de Joseph Mengele par Kirill Serebrennikov, en salle aujourd'hui, avec notamment un de ses acteurs fétiches qui est sur scène en ce moment, également dans une des pièces de Kirill Serebrennikov, Auguste Dill. Merci beaucoup Sandra Onana, merci Antoine Léris d'être venu dans les Midis de Culture pour évoquer ces deux films. Vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée, donc vous retrouvez toutes les références de ces films sur la page des Midis, et surtout, vous allez au cinéma.